parti. Bon? Vous êtes animé?
Oui.
Ah. C'est toi?
Ok.
Qu'il puisse nous enrichir de sa parole. Et ce matin, eh bien, c'est vrai que la fin des moments, ben, c'est pas des super moments, mais c'est des moments qui ont été filles, jeunes filles, qui ont rêvé de se marier un jour. Moi, en tout cas, je sais pas si en vieillissant, les hommes sont d'accord avec moi, mais les hommes, ça pense jamais à se marier, hein. Les petites filles, elles sont préparées, là, toute leur vie à vivre en couple avec un homme. Et quand elles rencontrent finalement celui que Dieu a choisi pour elles, eh bien voilà, paf, une grande partie de leur vie qui est comblée. Et là, il y a quelque chose qui se développe chez cette jeune fille quand elle aura des enfants. Eh bien, c'est la maman. La maman. Et c'est vrai que pour les mamans, eh bien, les garçons, les filles ou les enfants, ça demeure toujours les enfants. Peu importe l'âge qu'ils ont, eh bien, ça demeure toujours leurs enfants. Et moi, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est vrai que c'est grâce au Seigneur Jésus, mais ma maman m'a aidé beaucoup aussi à faire en sorte que je reste dans le droit chemin. Hein. J'ai été élevé dans un quartier ouvrier très criminalisé. Mes copains volaient, mes copains faisaient beaucoup de coups. Et moi, c'était l'éducation que j'avais reçue à la maison qui m'empêchait finalement d'aller très très loin dans le crime. J'ai fait des petits larcins comme à peu près tout le monde, mais la conscience, j'avais une conscience qui était éveillée, et je dois dire que c'est grâce à ma maman, finalement, que au lieu de devenir un criminel, comme beaucoup de mes anciens copains, eh bien, j'ai pu faire le choix d'entrer dans la police et faire une partie de ma vie dans la police. Et par la suite, eh bien, 6 mois après que j'ai quitté la police, eh bien, rencontré un chrétien évangélique qui a osé ouvrir la bouche pour me parler du Seigneur Jésus. Et ça, c'est la raison pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. C'est que j'ai rencontré la personne. J'aime beaucoup ma femme. C'est une très belle rencontre, mais ça ne battra jamais la rencontre que j'ai eue avec Jésus. Dites amen à ça. Amen. Alors, chacun de nous dans cette salle peut dire la même chose ce matin. Lorsque nous repensons à certaines situations que nous avons vécues dans le passé, parfois nous avons dit non alors que nous aurions aimé dire oui. Et parfois, nous avons dit oui alors que nous aurions aimé dire non. Mon expérience avec le Seigneur m'a appris que c'est toujours la bonne chose, voire même la meilleure chose à faire, de dire toujours oui à Dieu. Pardon. Et ce matin, nous allons regarder ensemble l'histoire d'un homme qui a dit oui à Dieu, et parce qu'il a dit oui la première fois qu'il a rencontré Dieu, cet homme a littéralement changé le cours de l'histoire du monde. En fait, c'est parce que cet homme a dit oui à Dieu que nous sommes tous dans cette salle ce matin. Cet homme dont je vous parle s'appelle Abraham. Et si vous voulez savoir ce qu'il faut pour avoir une relation avec Dieu, une relation intime et étroite avec Dieu, il vous suffit d'examiner la vie d'Abraham. Si l'apôtre Paul disait à son époque, « Frères, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous », eh bien, Abraham est aussi un modèle à imiter si vous et moi, nous voulons avoir une relation de qualité avec Dieu. Je vous invite à prier. On va remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Même si mon frère a prié tantôt, j'aime bien m'en remettre personnellement entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, eh bien, nous venons, Seigneur, nous présenter devant toi avec nos besoins, avec nos soucis, avec nos joies, avec nos découragements, avec nos encouragements. Et Seigneur, nous voulons que l'homme qui est devant ce pupitre ce matin s'efface. Et que Seigneur, l'Esprit parle à l'Église ce matin. Que l'Esprit réponde aux besoins, Seigneur, des uns et des autres. Afin qu'en quittant ce lieu, Seigneur, nous ayons la conviction, non seulement que tu nous auras parlé, mais que tu nous auras rencontrés et que tu auras répondu à nos besoins. Seigneur, je veux te remettre toute la gloire qui te revienne. Et c'est en Jésus le ressuscité que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Ce que nous allons apprendre à travers la vie d'Abraham ce matin, bien-aimé, c'est ceci. Chaque fois que Dieu se révèle à nous, chaque fois que Dieu nous parle, il attend toujours une réponse et il veut que cette réponse se limite à un seul petit mot, et ce mot, c'est oui. C'est tout ce que Dieu veut entendre. Il ne veut pas entendre peut-être, il ne veut pas entendre « Je suis trop occupé, Seigneur », il ne veut pas entendre non plus « J'ai pas le temps, reviens demain ». Il veut juste entendre un seul mot, c'est un petit mot, un mot « oui ». Savez-vous pourquoi? Parce que la seule chose que nous devons faire, vous et moi, pour avoir une relation de qualité avec Dieu, qui a créé ce monde, c'est de prononcer ce petit mot « oui ». Bien-aimé, lorsque vous dites « oui » à Dieu, vous changez non seulement votre monde, mais vous pouvez changer le monde autour de vous, bien-aimé. Maintenant, je vais vous poser une question. Nous, on prie. Et on aimerait bien que, finalement, à chaque fois que nous prions, que nous faisons une requête auprès du trône de la grâce, que Dieu réponde oui. C'est vrai, hein? Est-ce que, de son côté, Dieu ne doit pas s'attendre aussi à ce qu'on lui dise oui quand il nous demande de faire quelque chose? Quand Dieu nous appelle à un ministère, à s'investir dans un ministère particulier, est-ce que c'est pas un peu normal que Dieu puisse s'attendre à entendre un petit oui de la part de ses enfants bien-aimés? Et quand on ose dire oui à Dieu, vous pouvez pas savoir les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur. Il n'y a pas de limite à Dieu pour bénir son enfant bien-aimé. Il n'y a pas de limite. Si vous êtes comme vous et comme moi ce matin et que vous faites partie de ces personnes qui ont dit oui à Dieu, alors au moment où vous avez dit oui à Dieu, vous ne l'avez peut-être pas réalisé, ou vous n'avez peut-être jamais pris le temps d'y réfléchir, mais toute votre existence a changé de façon radicale et permanente. Et alors que nous nous apprêtons à examiner la vie d'Abraham, j'aimerais partager trois choses avec vous ce matin, trois choses à retenir si nous voulons avoir une relation de qualité avec Dieu. Et la première chose à retenir, c'est se rappeler que c'est par grâce que Dieu se révèle aux hommes et non pas en fonction de ce qu'ils ont fait de bien ou de mal dans leur vie. Voilà où tout commence, bien-aimés. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Dites amen à ça. Nous dépendons de la grâce de Dieu, bien-aimés. Lorsque vous lisez les premiers versets qui se trouvent au chapitre 12 du livre de la Genèse et que vous ne portez pas attention aux mots qui s'y trouvent, ils peuvent vous paraître inoffensifs et de peu d'importance. Et pourtant, certains des mots qui s'y trouvent font partie des mots parmi les mots les plus importants de toute la Bible. En fait, ce que je vais lire maintenant va changer littéralement non seulement tout le cours de l'histoire de l'humanité, mais va donner un nouveau sens à toute la race humaine. Genèse chapitre 12, verset 1, j'appelle ça 1A, moi, c'est-à-dire la première partie, les quatre premiers mots. L'Éternel dit à Abraham. Bien-aimé, Dieu parle à un homme. Certains sont peut-être en train de se dire qu'il est difficile de croire que ces quatre petits mots vont changer la face du monde. Et pourtant, je le répète, ces quatre petits mots vont changer non seulement le monde, mais ils vont changer le cours de l'histoire de l'homme et la raison pour laquelle nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Permettez-moi de revenir quelque peu en arrière. Lorsque nous lisons les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, et ce jusqu'au chapitre 12, nous ne pouvons pas nier que les hommes avaient un bilan assez déplorable quant à leur relation avec Dieu. Dieu avait créé Adam et Ève. Il les avait placés dans un jardin magnifique où ils vivaient dans une communion parfaite avec leur Créateur, à un point tel qu'ils pouvaient même parler directement avec lui, ce qui devait être le comble de leur bonheur. Tout se passe bien dans les deux premiers chapitres de la Bible, mais à partir du chapitre 3, Adam et Ève désobéissent à Dieu et perdent cette relation privilégiée qu'ils avaient avec lui. Et en permettant au péché de faire son apparition dans le monde, l'homme qui avait été créé pour vivre éternellement sur la terre va devenir mortel. Bien-aimés, ne sous-estimons pas les tactiques du diable pour nous faire perdre notre communion avec le Seigneur. Faisons attention, quand on est debout, de ne pas tomber. Il est souvent très difficile pour certains qui ont tombé de se relever. Et par la grâce de Dieu, Dieu place souvent un frère ou une sœur sur notre chemin pour nous tendre la main, pour nous relever. Dites amen à ça. Et c'est ça fait vraiment partie aussi. Des bénédictions qu'on en retire de faire partie de l'Église en Jésus-Christ, pardon. Les conséquences de leur désobéissance ne vont pas s'arrêter seulement à toute la race humaine, mais à tout ce que Dieu a créé. Alors qu'il vivait dans une paix parfaite avec Dieu, l'homme va vivre dorénavant dans un monde qui lui serait dorénavant hostile à cause du péché. Bien-aimé, le diable, c'est un fin tacticien. Ils ont tous les deux la vie éternelle. Ils sont sur le clair pour vivre éternellement. Le péché n'a jamais fait son apparition encore. Et Adam va réussir à convaincre Ève qu'elle va avoir une meilleure qualité de vie à vivre sans Dieu qu'avec Dieu, bien-aimé. C'est incroyable, hein? Et combien de fois le diable vient nous chuchoter aussi dans nos oreilles de faire une chose qui va nous permettre d'être encore plus heureux que ce que nous pouvons nous attendre de Dieu, bien-aimé. Et il nous arrive de tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce que nous avons quitté nos yeux sur la personne de Jésus. Et elle a perdu de vue ce que Dieu avait dit ce que Adam avait dit à elle, parce que c'est Adam qui avait reçu l'information. Et finalement, eh bien, elle va se laisser encoquiner. Bien aimé, vous pensez à ça, ils sont sur la terre pour vivre éternellement. Pensez à ça. À partir du moment où tu pèches, Jésus a dit, hein, pas Jésus, le Seigneur a dit, le jour où tu pécheras, tu mourras certainement. Ça veut dire, sois-en sûr. Mourir physiquement, mourir spirituellement, mourir éternellement. Et là, à partir du moment où ils commettent le péché, il y a quelque chose qui commence déjà à se dégrader. On n'a plus la même sorte de peau. C'est une peau qui commence à vieillir, bien-aimé. C'est une peau qui va nous rappeler qu'un jour, on va mourir, on va tous mourir. Et gloire à Dieu, en Jésus-Christ, Dieu rachète l'homme, rachète la femme. Et là, on a une espérance éternelle, c'est de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Avec un nouveau corps, bien-aimé. Fini les lunettes. Fini, finalement, les maladies. Fini l'arthrite. Fini ces problèmes-là. Dans le royaume des cieux, il y a une chose que vous pouvez être certain qu'il n'y aura pas, c'est les hôpitaux, bien-aimé. Parce qu'on a un corps glorifié, un corps éternel. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ça, c'est extraordinaire. En fait, lorsque nous lisons les 11 premiers chapitres de la Genèse, il y a seulement 2 hommes parmi toute la population du monde qui vont vivre en parfaite communion avec Dieu. Le premier, c'est Enoch, qui a vécu avec Dieu, puis disparu, car Dieu l'a repris auprès de lui. En fait, le mot « pris », c'est pas vraiment « pris », c'est le mot dans l'hébreu, c'est le mot « hébreu », c'est « enlevé ». Et moi, ça me console, ça, parce que si Dieu, dans l'Ancien Testament, était capable d'en faire décoller un de la terre puis l'amener avec lui en haut, l'enlever, bien-aimé. Ben, imaginez-vous que quand Jésus-Christ va venir, la puissance que Dieu en Jésus-Christ va avoir pour faire décoller son Église et les amener avec lui pour l'éternité dans le paradis. Bien-aimé, ce jour, il revient. Je peux vous dire aujourd'hui que Jésus revient bientôt, bien-aimé. Quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, cette génération ne peut pas continuer à vivre plus longtemps sans qu'il arrive pas un désastre, bien-aimé. Et j'espère que pour éviter ce désastre, eh bien, le Seigneur va raccourcir les jours et que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir, mettre fin à tous ces abus sexuels, physiques, moraux et autres, bien-aimé. Vous savez, honnêtement, on n'a rien envie à Sodome et Gomorre, bien-aimé. Je suis en train même de me demander si c'était pire chez Sodome et Gomorre. Et c'est une grâce que Dieu n'a pas déjà donnée son jugement. La femme de Billy Graham, Ruth Graham, a dit ceci un jour, « Si Dieu ne punit pas cette génération dans laquelle on est, il aura à se repentir d'avoir jugé Sodome et Gomorre. » Bien-aimé, je ne suis pas persuadé que c'était pire à Sodome et Gomorre. À un moment donné, quand le Seigneur en a ras-le-bol du péché qui s'est répandu partout sur la terre, quand Dieu intervient, eh bien, c'est le jugement de Dieu, et là, il n'y a plus de pitié, là. Il n'y a plus de pitié. Et Dieu est patient, bien-aimé. Dieu est patient, et Dieu s'attend à ce que son Église puisse proclamer l'Évangile à ceux et celles qui sont sans espérance et qui sont découragés à l'extérieur. Il nous a dit ensuite que les hommes devinrent de plus en plus malfaisants, et que les penchés de leur cœur se portaient de façon constante et radicale vers le mal. À un point tel qu'un seul homme trouva grâce aux yeux de Dieu, ce fut Noé. Un homme droit, fidèle à Dieu, qui vivait en communion avec Dieu. Bien-aimé, Noé a évité le jugement de Dieu parce qu'il était un homme droit, parce qu'il était un homme fidèle qui vivait en communion avec Dieu. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. C'est ce qu'il nous demande de vivre. C'est ce qu'il nous demande de vivre. Il y a des chrétiens qui vivent la même vie qu'ils vivaient dans le monde et qui s'imaginent qu'ils peuvent recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Hein. Ben ça, c'est pas l'évangile que je lis. Hein. Dieu nous a justifiés, il nous a pardonnés. Et après, qu'est-ce qu'il veut faire? Romains chapitre 8, verset 29. Pourquoi qu'il nous laisse sur la terre nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ? Qu'on soit pas obligé de porter des t-shirts, c'est marqué « Je suis chrétien » en avant puis dans le dos, pour que les gens puissent s'apercevoir qu'on est chrétien, mais qu'on dégage finalement, qu'on transpire la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, le premier chrétien qui m'a parlé, là, m'a pas prêché l'Évangile. Hein. Il est intelligent hein, dans le 1 à 1. Il m'a pas sonné avec la Bible. Hein. Et vous savez ce qui est sorti de mon cœur? Jacques, ce que tu cherches, cet homme, c'est Ia. Ce que tu cherches depuis toujours, Jacques, cet homme, il l'a. Il y avait des yeux là qui me regardaient, c'était surnaturel, bien-aimé. Il n'était pas possédé. Ou s'il était possédé, il était possédé de Jésus. J'ai commencé à faire ma recherche spirituelle à partir de là. Et Dieu qui est fidèle a commencé, c'est bizarre, à chaque semaine j'avais un chrétien, Dieu me plaçait un chrétien évangélique sur mon chemin. Bien-aimé, parce que j'avais pris conscience de la question de l'éternité et j'avais réalisé que finalement, la religion dans laquelle j'appartenais n'avait pas la réponse pour me dire exactement où je pensais à l'éternité. Et moi, j'ai vu dans son salon, de cette personne-là, eh bien, j'ai vu à un moment donné le salon, le plancher s'ouvrir, un abîme qui s'est ouvert, qui s'est présenté devant moi, je me voyais descendre dans un trou sans fin, perdu pour l'éternité. Et là, je voulais avoir ma réponse, je voulais savoir où je voulais passer l'éternité, j'ai cherché. Et cet homme-là, il m'a pas bombardé avec la Bible, il m'a dit, si tu veux trouver ta réponse, va t'acheter une Bible. Et j'ai dit, oui, mais la Bible, c'est assez épais, hein? Où je vais trouver ma réponse? Ah, lis l'Évangile de Jean. Et quand j'ai trouvé ma réponse, bien-aimé, aïe, 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 quel changement, quel changement. Et si je suis devant vous aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y en a un jour, qui a osé me parler de Jésus, sinon je serais encore dans mes péchés, me vautrais dans ma soue, dans mon vomi, hein, au Québec, bien-aimé. Et Dieu m'utilise parce que j'ai dit oui à Jésus. Parce que je dis oui à Dieu quand il me demande quelque chose. Et Dieu s'attend à ce que vous lui disiez oui, bien-aimé. On est trop branché. C'est une l'Église d'aujourd'hui, la génération d'Église d'aujourd'hui, on est trop branché sur le nom. On n'a pas le temps. Mais bien-aimé, il faudra un jour prendre le temps de mourir. Et on aura des comptes à rendre devant Dieu. Hein? Pour lisez la parabole des trois serviteurs. C'est celui qui avait reçu le moindre don de Dieu qui a été jugé par Jésus. Parce qu'il n'a pas fait fructifier le don qu'il avait reçu de Dieu. Bien-aimé, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un don, tout le monde a reçu un don, si vous êtes né de nouveau. La question que vous pouvez vous poser ce matin, sans esprit de jugement, hein, est-ce que vous exercez ce don que Dieu vous a donné? C'est là-dessus que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Dieu a donné un don à chacun qui est né de nouveau. Vous avez tous un don. Et en principe, c'est pour ça qu'on doit fréquenter l'Église, parce que souvent, ce sont les membres du conseil qui, à travers ce que vous faites dans l'Église, qui vont vous dire, écoute, toi, tu as ce don-là. J'ai déjà dit à quelqu'un dans cette salle ici, toi, tu as le don de présider. J'ai déjà été dans d'autres salles, j'ai dit, toi, tu as le don de prêcher. Est-ce que tu prêches? Il m'a dit non. J'étais béni par après, c'est pas moi qui étais allé voir le conseil. Il m'a dit, hey, depuis que tu m'as dit ça, ben, on m'a fait prêcher. Il m'a fait présider. Bien-aimé, si on vient jamais à l'Église, comment voulez-vous que les gens découvrent votre don? Comment voulez-vous découvrir votre don si vous participez à la vie de l'Église? C'est en participant à la vie de l'Église qu'à travers les membres de l'Église, Dieu va révéler le don que vous avez reçu, le don spirituel que vous avez reçu, bien-aimé. L'Église, elle sert aussi à ça. Il est bon de remarquer qu'après le déluge, Dieu ne s'était révélé à personne depuis qu'il avait parlé à Noé, car le mal avait repris toute sa place sur la terre. Et la vue humaine ne semblait pas y avoir de lumière au bout du tunnel. Et puis nous arrivons au chapitre 12, Et de ses ténèbres, Dieu va faire briller la lumière de sa parole à un seul homme, et cet homme, c'est Abraham. Dieu était à la recherche d'Abraham, alors que nulle part il nous est dit qu'Abraham cherchait Dieu. Pourtant, il n'y avait rien chez Abraham qui aurait pu inciter Dieu à le chercher ou à lui parler. Car Abraham était non seulement un païen, un idolâtre, qui vivait dans le pays dont les habitants étaient non seulement rebelles à Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu, qui n'obéissait pas à Dieu, qui n'aimait pas Dieu et ne voulait pas de Dieu et qui ne voulait rien savoir de Dieu. Et la question qui nous vient alors à l'esprit, c'est la suivante. Pourquoi alors Dieu vient-il vers Abraham pour se révéler à lui? Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, bien-aimé, et cela s'appelle la grâce. Simplement la grâce. Si vous êtes ici ce matin dans ce lieu, si vous êtes chrétien né de nouveau ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu, bien-aimé. Nous lui sommes redevables éternellement d'avoir reçu cette grâce, non méritée. Nous avons un privilège d'entendre l'Évangile à chaque semaine, alors qu'il y a encore des gens dans ce pays qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et Dieu veut faire en sorte que les gens qui vivent à l'extérieur de ce bâtiment reçoivent la grâce d'entendre l'Évangile. Et c'est pas Jésus qui va le faire, mais Jésus va le faire, mais à travers vous, bien-aimés. Quel appel! Un message qui aura une portée éternelle, bien-aimés. Quel appel vous avez? Quel appel j'ai reçu, bien-aimés? Est-ce que vous vous sentez concerné ce matin? Bien-aimés, l'évangélisation, là, c'est le sang de l'Église. Les statistiques disent qu'après 80 ans, une Église qui a pour évangéliser, on met la clé dans la porte. Et je peux vous dire qu'à visiter les Églises, il y en a qui sont en danger de mettre la clé dans la porte. Parce qu'ils sont bien ensemble. C'est pas une Église, c'est un club social. On est bien ensemble, hein. Faut pas qu'il y ait de nouveaux, hein. On serait perdu, hein, s'il y avait des nouveaux, hein. Ça, c'est pas l'Église, hein. Heureusement que Jésus n'a pas dit ça à ses 12 ici. Bon, on est bien ensemble, les 12, on va arrêter là, hein. On serait perdu aujourd'hui, bien aimé. J'espère que je vous choque pas, je vous parle avec mon cœur, hein. Je suis pas capable de vous prêcher, moi, ce que je pratique pas. Je suis pas un hypocrite. Moi, je vous dis, j'ai prié, notre frère a prié, je vous dis exactement ce que le Seigneur me place sur mon cœur. Bien-aimé, en Belgique, l'Église est en danger de mort, bien-aimé, est-ce que vous le réalisez? Il y a des pays, hein, savez-vous que l'Afrique du Nord, pendant la période de l'apôtre Paul, était à 98% chrétienne, et qu'aujourd'hui, elle est à 98% musulmane? Pourquoi? Parce que l'Église était tellement bien qu'à un moment donné, on a fermé nos portes. On est bien ensemble, hein? Et un gars qui s'appelle Mahomet, il est passé là-dedans, il a fait une razzia. Il a obligé les gens à changer de religion. Et vu que c'était des chrétiens religieux, on a changé de religion. Ouais. Mais je vous annonce pas ça, je vous dis que ce que je constate, l'Église en Belgique, elle est en danger de mort. Cette même grâce que Dieu révélera plus tard au monde que dans la personne de Jésus-Christ, qui est la source de salut pour tous les hommes, cette même grâce qui nous annonce à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, c'est cette grâce qui s'est révélée à Abraham. Et en portant un regard sur Abraham, Dieu n'a pas dit, Abraham, tu es chez type, ou encore, j'aime bien tes parents, voilà pourquoi je suis venu te me présenter à toi. Non. Est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham parce qu'il le méritait? Absolument pas. Dieu est venu parler à Abraham, non pas à cause de ce qu'il était, mais en dépit de ce qu'il était, bien-aimé, ou de ce qu'il faisait. Parce que tout est une question de grâce. Abraham n'a pas été appelé par Dieu parce qu'il était un grand homme. Abraham est devenu un grand homme parce qu'il a été appelé par Dieu, parce qu'il a simplement répondu oui à l'invitation de Dieu. Voilà ce qui fait qu'Abraham est devenu un grand homme. Bien-aimés, nous savons qu'une relation avec Dieu repose toujours sur la grâce de Dieu et non pas parce que nous cherchions Dieu. Car il n'y a personne qui cherche Dieu, c'est plutôt Dieu dans sa grâce qui nous cherche. Paul le rappelle à propos du peuple d'Israël, il dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Mais écoutez bien la grâce de Dieu maintenant. Ésaïe 65, verset 1. Dieu dira à Ésaïe, je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Voilà la grâce. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Voilà la grâce. J'ai dit, me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. Ça, c'est la grâce, bien-aimé. Dans notre nature humaine, nous n'éprouvons aucun sentiment pieux pour Dieu, et pourtant, voici comment il a manifesté son amour pour vous et pour moi, bien-aimé. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons, et ça j'aime bien, que nous ayons la vraie vie en lui. À l'extérieur, c'est pas la vraie vie, bien-aimé. C'est un mirage à l'extérieur. C'est pas la vraie vie à l'extérieur. Parce que cette vie-là va prendre fin un jour. La vraie vie, c'est celle qui est appelée à durer pour l'éternité, bien-aimé. Ça, c'est la vraie vie. Et ça, c'est bon pour les vrais chrétiens, bien-aimé. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. Le chrétien non qui est pas né de nouveau et le chrétien du cœur, de cœur qui est né de nouveau. Et c'est deux races à part, ça, bien-aimé. Un marche sur les mérites et l'autre, il fonctionne dans la grâce. Un esprit de jugement, il se compare aux autres, il se compare toujours au moins bon qu'eux, et ça le relève. Il se sent un bon chrétien. Le chrétien qui est né de nouveau, il se compare à une seule personne, c'est à Jésus-Christ. Et il se dit, jamais je vais y arriver. Ça, c'est les deux races qu'on a dans nos églises. Vous savez, en écoutant votre cœur, de quelle race vous appartenez. Vous le savez, en fonction des actions ou de votre vie chrétienne, du lundi au samedi, vous savez à quelle race vous appartenez, bien-aimé. Je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous condamner. Je suis simplement poser des questions pour vous amener à réfléchir, voilà. Dans notre nature humaine, je le répète, nous n'éprouvons aucun sentiment pieux pour Dieu. Pourtant, voici comment il a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il l'a démontré en envoyant son Fils qui s'est offert pour le pardon, en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Bien aimé, heureusement que Dieu nous a aimés en premier, parce que s'il avait attendu qu'on l'aime avant de nous aimer, il attendra encore, bien aimé. Tellement qu'on n'en a rien à cirer de Dieu. Quand on est dans le monde, en tant que chrétien, je ne te dirais pas qu'on n'a rien à cirer de Dieu, mais souvent, on est occupé à faire autre chose que ce qu'on devrait faire en tant que chrétien, bien aimé. Je suis convaincu que le cœur de Dieu est triste de voir l'état de son Église aujourd'hui. Je parle pas de cette Église-ci, hein. Je parle pas de votre Église. Je parle pas non plus des APEB, hein. Je vais dans d'autres familles d'Église aussi. Il y a des églises, si c'est pas discothèque, eh bien, ça fonctionne pas. Par contre, le contraire, quand tu rentres dans une église, faire des salons funéraires, c'est pas bon non plus, quoi. Il y a un équilibre à aller chercher, quoi. Le problème, c'est que les concerts de louanges fonctionnent très, très bien. C'est bourré massif. Il y a une église, je ne sais pas si c'est arrivé dans la région ici, c'est Impact. Impact sont tous en train de sortir les jeunes de nos églises. Pourquoi? Parce que le sermon est très dilué. Et tout est mis sur l'ambiance, tout est mis sur la louange. Et nos jeunes, ben pourquoi ils quittent nos églises? Parce qu'ils voudraient avoir ces mêmes sensations qu'ils ont dans ces genres de concerts de louange dans leur église. Mais l'église, c'est pas une discothèque. Non. Ce qui doit rester central dans une église protestante ou évangélique, c'est le message de l'évangile qui doit être prêché. La parole doit rester au centre. Si on s'éloigne de ça, à un moment donné, il y a une dysfonction. Alors, si nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre une relation avec Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous par grâce. C'est lui qui est venu vers nous, c'est lui qui a fait le premier pas. Et quand Dieu se révèle à nous, il attend une seule réponse, un simple mot, oui, qui doit être suivi par un acte d'obéissance. Si dans un premier temps, nous devons nous rappeler que c'est par grâce que Dieu se révèle aux hommes, dans un deuxième temps, nous devons nous rappeler que Dieu s'attend à ce que nous répondions oui à son invitation par la foi, bien-aimé, par la foi. Bien-aimé, Dieu ne s'est révélé à personne depuis des siècles, et la première chose qui sort de sa bouche quand il parle avec quelqu'un, c'est de l'amener à prendre une des décisions les plus difficiles de sa vie. Il va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Ça doit sûrement pas été, avoir été facile pour Abraham, bien-aimé. Non seulement Abraham n'avait jamais rencontré Dieu, mais il ne savait même pas qui était Dieu. Et voilà que ce Dieu qu'il ne connaissait pas se révèle à lui et lui dit de quitter son pays, sa patrie et sa famille et d'aller dans un pays étranger. Bien-aimé, imaginez que vous êtes Abraham et que vous avez 75 ans, 75, pardon, ce qui n'était pas vieux pour l'époque. En fait, à cette époque-là, vous étiez plutôt dans la fleur de l'âge. Hein? Ah, c'est vrai. Hein? Vous vivez dans la ville de Charan, au sud de la Mésopotamie, c'est là qu'Abraham vivait. Le verset 5 du chapitre 12 nous laisse penser qu'Abraham était peut-être propriétaire d'une grande entreprise et qu'il était soutenu par les membres de sa famille. Imaginez, la plupart des gens des gens vous connaissent et au fil des années, vous êtes fait beaucoup d'amis. Tout le monde vous connaît, vous êtes apprécié par tous et les premières paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est « Abraham, je veux que tu quittes tout de suite ce pays ». Nous pouvons nous imaginer qu'il est possible qu'Abraham ait pu dire à Dieu « Seigneur, est-ce que je peux au moins savoir pendant combien de temps je serai parti? » Si c'est le cas, Dieu lui a sûrement répondu, « Je ne te le dirai pas. » C'est une question de foi. Abraham a sûrement relancé Dieu en lui demandant dans quel pays il habitait. Il habiterait. Et Dieu lui a sûrement répondu, « Abraham, je ne te dirai pas, c'est par ma foi. » Nous pouvons imaginer qu'Abraham a sûrement posé une dernière question à Dieu, en lui demandant ce qu'il allait faire, il allait bien faire lorsqu'il serait dans ce pays. Et Dieu lui a sûrement répondu, « Je ne te le dirai pas, c'est une question de foi, Abraham. » Tout est une question de foi pour Dieu. Bien-aimé, si je n'avais pas dit oui à Dieu, je ne serais pas converti aujourd'hui. Je ne serais pas un chrétien ni nouveau et je ne serais pas en Belgique. On appelle en Belgique, là, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Quand j'ai quitté la faculté, Dieu nous a dirigés, je sais pas pourquoi, vers l'armée du salut. Et on est allé vers l'armée du salut pour une raison, parce qu'on trouvait qu'au niveau social, c'était quelque chose qui manquait dans nos églises évangéliques. Et on trouvait que l'armée du salut, c'était un mouvement qui pouvait nous apprendre beaucoup de choses sur finalement la dimension sociale que l'église devrait avoir dans le monde. Ensuite de ça, dans les camps, ils étaient, je sais pas ici, mais en tout cas, dans les camps au Canada, ils sont experts pour ça, les camps de famille, les camps de jeunes et tout ça. Ils ont plus de 100 ans, alors ils connaissent le système. On a voulu, puis on est devenu officier, voilà. Et à un moment donné, après quelques années comme officier, le colonel, il nous appelle dans son bureau, il dit, j'ai un appel pour vous, un appel outre-mer. Ah? J'ai dit où? Non. Il me dit oui avant. On va connaître la place. On a quatre enfants. On est allé assez vite, mais dans 8 ans, on en a eu 4. Les deux derniers avaient 2 ans et demi et 4 ans. Alors ça, et vous savez, là, on est retourné à la maison et on a réfléchi. Et là, j'ai pris une feuille à 4 et j'ai fait une ligne au milieu. Les raisons pour lesquelles on devrait y aller, les raisons pour lesquelles on devrait refuser, les raisons pour lesquelles on devrait y aller. J'ai fait la liste des raisons pour lesquelles j'avais refusé. Et là-dedans, il y avait « Jean, pense à ta maison, les heures que tu as passées pour rénover ta maison. Es-tu prêt à mettre ça de côté? Une belle piscine. Ta piscine, Jean, tu n'auras plus de piscine. Ouais. Des copains dans l'église avec qui tu t'entends bien. Ouais. Il reste. Tes voisins. Il reste. Et ici, Dieu te demande juste à dire oui. On a signé un contrat de 3 ans. Attendez, oh, il faut... Alors, on est allé revoir le colonel. On a dit, OK, oui, il n'y a pas de problème. Où? Belgique. Moi, Belgique, écoutez, honnêtement, hein, je ne veux pas insulter personne. Non. La seule fois que j'avais entendu le mot Belgique, c'était quand je lisais un livre de Tintin, c'était marqué Casterman, Belgique. Et là, j'ai regardé sur ma carte de l'Europe, j'ai tassé la France, l'Allemagne, la Hollande, et là, je l'ai vu, la Belgique. Eh bien, mes amis, moi, je suis comme Abraham. Dieu m'a appelé, j'ai répondu oui. Il m'a déraciné, mon pays, maintenant, c'est la Belgique. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne retournerai pas en Québec. Je suis déraciné. Mon pays, c'est la Belgique. Mes frères et sœurs, c'est les Belges. On a beau dire pour les Québécois, leurs cousins, c'est les Français, mais non. Ils peuvent rester mes cousins, mais mes frères, mes sœurs, c'est les Belges, les Némés. Voilà. Je ne sais pas dans quelle région, dans la région de Charleroi, ça doit ressembler un peu à Liège. Les Québécois sont très festifs, sont directs, sont cash. Les Belges, je trouve qu'ils sont pareils. Pas pareil comme les Québécois. Pas tous les endroits, mais en tout cas, je pense, il y a différentes régions, c'est vraiment comme ça. Et moi, je vous aime. Je ne sais pas si vous m'aimez, mais moi, je vous aime. C'est pas facile d'aimer un gars qui vous crache tout ça, hein, sur un sermon un matin. Hein. Je sais que c'est pas évident, hein. Pas facile, hein. Quand le Seigneur me l'envoie, moi, dans mon cœur, vous pensez que je vous parle à vous ce matin, hein? Le premier à qui ça a parlé, c'est à moi. Il y a des lignes que j'ai voulu effacer, le Seigneur dit, laisse cela, c'est pour toi, Jean, ce matin. Voilà. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu voulait vous parler. Pas vous blesser, vous parler. Si vous êtes blessé, Dieu veut vous guérir ce matin. Parce que Dieu en a encore le pouvoir en Jésus-Christ de vous guérir. Il suffit simplement de lui dire oui. Lui dire oui. Pas tout prendre les grâces et rien donner en retour. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Oui. Dites amen. Qui a dit amen à ça, là? Ah, double bénédiction pour ma sœur ce matin. Amen, bien-aimé. Oui, qu'il en soit ainsi. C'est pas pentecôtiste, hein, c'est chrétien, hein. Mais c'est même juif dans l'Ancien Testament. Après une prière de Salomon, le peuple a crié amen. Qu'il en soit selon ta volonté, Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui. Ah, quel Seigneur, j'ai l'impression que Dieu, là, on le prie tellement peu, hein, pour lui demander des choses tellement qu'on est gêné, qu'il doit avoir les bras pleins de bénédictions à donner, puis qu'il les garde. Alors qu'il voudrait les déverser, bien-aimé. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui veut nous combler, bien-aimé. C'est des promesses dans sa parole. Par contre, on voudrait mettre le bonheur. Hein, il y a une philosophie humaniste qui est rentrée dans nos églises, je ne vais pas dire laquelle, qui s'est répandue partout, sournoisement d'ailleurs, qui nous dit que pour être heureux, il faut vivre comme il faut être bien fait. Et pourtant, quand vous lisez le sermon sur la montagne, hein, heureux êtes-vous si vous êtes persécuté à cause de mon nom. Heureux! Allez parler de ça à l'apôtre Paul, qui a été lapidé, qui a été battu à coups de fouette, qui a passé 24 heures dans l'eau pour le nom de Jésus. Heureux était Paul, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur sa patrie céleste, bien-aimé. Abraham, c'est ça, hein? Dans Hébreux chapitre 11, il avait les yeux fixés sur la patrie céleste. Abraham croyait déjà à la résurrection, bien-aimé. Quand il a dit à ses serviteurs, gardez ceci, moi et mon fils, on va en haut et on revient. Il a dit, nous reviendrons. Il n'a pas dit, je reviendrai. Il savait bien qu'il ne sacrifierait pas en haut, hein? Parce qu'il a dit, il aurait dit, je reviendrai. Et on a la réponse dans Hébreux. Abraham était certain que Dieu avait la capacité de ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Alors, peu importe ce qui se passait sur la montagne, Abraham savait, à cause de la promesse qu'il y aurait de postérité, il savait que Dieu avait la capacité de le ramener à la mort. Bien-aimé, croyez-vous à la résurrection des morts ce matin? Avez-vous la certitude que vous allez passer l'éternité ce matin? Alors, si vous êtes amen à ça, qu'est-ce qu'on attend pour aller à l'extérieur et d'essayer d'établir des contacts pour parler avec les gens? Ne parlez pas de la Bible avec personne. Ne parlez pas de Jésus la première fois que vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Jamais. Intéressez-vous à la personne d'abord. Je ne parle jamais de Jésus avec quelqu'un la première fois. Jamais. Ensuite, on sort notre patois de Canaan. Comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose? C'est comme si un russe vous parlait ce matin. Vous êtes français. Vous connaissez pas un mot de russe, tu dis. Et il te parle pendant une demi-heure. Et quand il est parti, tu dis, c'est un malade, ce gars-là, quoi. Ben, les gens sont des bombardes avec ça, tout de suite, en partant, qui connaissent pas le langage évangélique. Quand on part, une fois un beau sourire, par politesse, mais quand on est parti, ici, c'est échappé de Notre-Dame-des-Anges, lui, quelque chose qui va pas, quoi. Oui. Bien-aimé, il y a un verset qui dit « Ça prend beaucoup de sagesse pour gagner des âmes. » Et ça prend beaucoup de sagesse pour gagner des âmes. Beaucoup de sagesse. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent en eux-mêmes que Dieu demanda à Abraham d'avoir une foi aveugle. Absolument pas. Et nous allons le voir dans une minute. Dieu ne demande jamais que nous ayons une foi aveugle. Dieu ne nous demande jamais de se lancer dans l'inconnu sans raison. Parce que si dans un premier temps, c'est par grâce que Dieu nous appelle et qu'il nous utilise pour l'avancement de son royaume, si dans un deuxième temps, nous avons vu que Dieu s'attendait à ce que nous répondions oui lorsqu'il nous appelle, et ce, par la foi, en terminant, le troisième point, nous devons nous rappeler que celui qui a la foi qui sauve, c'est celui qui s'appuie toujours sur les promesses de Dieu. Voilà l'importance pourquoi on doit lire notre Bible, parce que les promesses de Dieu se trouvent dans la Bible, bien-aimés. Et un chrétien qui ne s'appuie pas sur les promesses de Dieu, c'est un chrétien qui vacille régulièrement. Écoutez maintenant ce que dit Abraham, ce que le Seigneur dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, première promesse, je te bénirai, deuxième promesse, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il y a trois grandes promesses là-dedans. Ce qui est important de bien saisir ici, c'est que Dieu commence sa relation avec Abraham en lui disant ceci, « Abraham, fais-moi confiance. » Ne crains rien, je t'ai révélé ma parole suivie par une promesse. En fait, ce que Dieu a dit ici à Abraham est très simple. Il lui a dit à Abraham, si tu attends de moi, je te fournisse une explication pourquoi tu dois partir, tu n'en auras pas. Si tu attends ce que je te donne des garanties que tout va bien aller pour toi, tu n'en auras pas. Tout ce que je vais te donner, c'est ma parole dans laquelle tu trouveras trois belles promesses que nous allons voir là, dans quelques minutes, un peu plus loin. Bien-aimé, j'ai dit oui à Dieu pour venir en Belgique. Contrat de 3 ans, je devais retourner au Québec. On était dans les bagages, on était dans les boîtes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'était Georges Quenon, oui. Georges Quenon m'appelle, écoute, dans telle église, ils n'ont pas de pasteur, et puis il y avait un prédicateur invité, puis il s'était commandé, puis tu allais prêcher. J'étais dans mes caisses, pas de problème, oui, oui, Seigneur. On m'a dit, bien, si tu peux revenir la semaine prochaine, ça nous aiderait. Je vais venir. Et puis une semaine après, OK, c'est bon. Et après ça, la troisième semaine, on m'a dit, « Est-ce que tu aimerais ça devenir notre pasteur? » J'ai répondu oui. Parce que j'ai reconnu que Dieu parle à travers ces gens-là. C'était une unanimité dans cette église, alors oui. Et à un moment donné, je suis resté là 3 ans. Et on recommençait à mettre nos affaires dans les boîtes pour partir. Et là, le pasteur de Neut, il me dit, « Voudrais-tu aller prêcher à Adelin? » Le pasteur est parti depuis 6 mois et il n'a pas personne pour prêcher aujourd'hui. Je suis allé 3 fois encore la même chose. Et je suis resté là 20 ans. Et là, j'ai 74 ans. Je préfère faire le tour des églises et ne pas vivre avec les problèmes des églises, mon frère, mon beau. Je sais ce que c'est qu'une église, c'est pas facile. Ma femme, elle sourit quand je dis l'église. C'est un grand hôpital où tout le monde se pense en santé. C'est ça notre problème, enfin. On se pense tous en santé spirituelle, mais on est tous des malades spirituellement parlant. Tant que le Seigneur ne nous délivre pas de tous nos travers, tant que nous disons pas, Seigneur, écoute, fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Utilise-moi là où tu veux m'utiliser, Seigneur, et non pas où moi je me sens fort dans mes capacités physiques pour lui-même, pour t'aider. Parce que quand on sert le Seigneur dans ce qu'on est plus fort, eh bien, on sert un petit Dieu. Mais quand on s'en remet entre les mains de Dieu, eh bien là, on est disponible et on sert un grand Dieu. Parce qu'on dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ce qui est important de bien saisir ici, c'est que Dieu commence sa relation avec Abraham en lui disant simplement, fais-moi confiance. Et bien aimé, c'est ça. C'est vrai qu'on est dans un monde où on doute de tout, où on se fait coincer par toutes sortes de choses, piéger par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, bien aimé, il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Dieu ne vous utilisera jamais pour vous piéger, pour vous faire souffrir, bien-aimé. Le monde va vous faire souffrir, mais Dieu va vous soutenir dans votre souffrance, bien-aimé. Et vous allez en sortir grandi et non pas diminué. Je t'emmène à ça. Bien-aimé, voici ce que Dieu est en train de dire à Abraham. C'est par grâce que je me suis révélé à toi. À toi, tu ne méritais absolument rien. Je te demande maintenant de faire un pas et de venir vers moi par la foi. C'est toujours ainsi que Dieu a fonctionné dans le passé. C'est toujours de la même façon qu'il continue à fonctionner de nos jours. Je me révèle à toi par grâce et c'est par la foi que tu me réponds. Es-tu prêt maintenant à me faire confiance? Es-tu prêt à tout abandonner pour moi? Et quand Dieu pose la question, es-tu prêt à me faire confiance, il n'y a qu'une seule réponse que Dieu désire entendre sortir de notre bouche. C'est un petit oui. C'est tout ce que Dieu désire entendre. Bien-aimé, la balle est maintenant dans le camp d'Abraham, et les huit mots qui vont suivre au verset 4 vont nous révéler le degré de foi de cet homme. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Rappelez-vous, Abraham ne savait pas où il allait. Il ne connaissait pas la raison pour laquelle il devait partir. Il ne connaissait même pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois de sa vie, bien-aimé, et ça, c'était mon cas aussi, il savait que son avenir était entre bonnes mains. Et le simple fait d'avoir dit oui à Dieu, qui va le faire entrer dans le temple de la, c'est ce qui va le faire entrer dans le temple de la renommée de Dieu, au chapitre 11 du livre des Hébreux. Il est écrit dans Genèse 12, 5, Abraham prit Sarah pour sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Pour la première fois, Abraham bâtit un autel, un symbole d'adoration vers son Dieu. Ensuite, à l'est de Bethel, Abraham bâtit encore là un autre autel et il va invoquer le nom de l'Éternel. Des siècles plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que c'est par la foi qu'Abraham, alors appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et ce, sans savoir où il allait. Au chapitre 15, verset 1, il est écrit que Dieu apparut à Abraham et lui dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, c'est-à-dire dans l'hébreu, je suis ton protecteur, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, je suis sans enfant, et tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer, un de mes serviteurs. » Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, le Seigneur lui dit, « Abraham, regarde le ciel. Et compte les étoiles, Abraham, si tu en es capable. Si tu telle sera ta postérité. » Et au chapitre 17, alors qu'Abraham est maintenant âgé de 99 ans, 99, Dieu lui apparaît et fait une alliance avec lui. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence. » Et sois intègre, irréprochable. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Alors Abraham tomba sur sa face, dit le texte biblique, et Dieu lui parla en disant, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et chaque fois que Dieu avait dit à Abraham, fais ceci, fais cela, va ici, va là, Abraham avait toujours dit oui. Dieu venait maintenant de promettre à Abraham qu'il aurait un héritier qui sortirait de ses entrailles. Et encore une fois, celui-ci ne savait pas comment cette promesse allait se réaliser. Mais malgré les apparences, il croit et il continue à faire confiance à Dieu. Vous savez, souvent, c'est quoi notre problème, bien-aimé? C'est que on a hérité ça de nos parents, hein? Souvent, qu'est-ce qu'on nous disait quand il y avait des visites qui venaient? Sois sage comme une image, hein? Les apparences, c'est important, les apparences. Et il y a un verset, je sais pas si on dit ça ici en Belgique, mais on dit que les apparences sont souvent trompeuses. D'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire à Samuel, hein? L'homme fonctionne par les apparences, moi je regarde dans les cœurs. Pas dans les apparences. Il y a des gens qui se marient en fonction des apparences qui sont fort déçus aujourd'hui, hein? C'est vrai, hein? Dieu venait maintenant de promettre à Abraham qu'il aurait un héritier qui sortirait de ses entrailles, et encore une fois, celui-ci ne savait pas comment cette promesse allait se réaliser. Mais malgré les apparences, je le répète, il croit, il continue à faire confiance à Dieu. Écoutez maintenant ce qui est écrit au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est pourquoi il le considéra comme juste. Une question de foi, pas une question d'œuvre, une question de foi. Il le considéra comme étant juste, pas en fonction de ce qu'il avait fait, mais en fonction de ce qu'il avait cru. Et il y a combien de chrétiens, pendant des années, qui sont dans le faire, plutôt que dans l'être, et qui font des œuvres, plutôt que d'obéir à Dieu. On a l'impression qu'ils cherchent à se racheter de leurs anciens péchés. Ah, que tout a été payé à la croix. Le religieux, il est dans le faire, comme les pharisiens. Le chrétien, il est nouveau dans le être. Devenir semblable à la personne de Jésus-Christ. Penser, agir, aimer comme Jésus. Et il est important que nous réalisions ce qui vient de se passer ici. Avant le verset 6, Abraham était un païen. Et à partir du verset 6, Abraham est devenu non seulement un juif, mais il est devenu aussi un chrétien qui sera appelé par la suite le père de tous les croyants. Bien-aimés, ce que nous venons de lire au verset 6 met en lumière la façon dont vous et moi pouvons avoir une relation de qualité avec Dieu. Il est important de se rappeler que toutes les bonnes actions que nous accomplissons ne suffiront jamais à effacer un seul de nos péchés. Dieu a dit à Isaïe que toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un vêtement de sang, taché de sang, Isaïe 64:6, et que pour être trouvé juste aux yeux de Dieu, ce n'est que par la foi que nous pouvons y arriver. Et au chapitre 18, le Seigneur apparaît à Abraham près des chaînes de Mamré. Il lui dit au verset 10, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Abraham s'est sûrement dit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne comprends pas tout, j'ai 100 ans, Sarah en a 90, et non seulement elle a passé l'âge d'avoir des enfants, mais en plus elle est stérile. Pourtant, malgré les apparences, je crois ce que Dieu m'a dit. Je crois, Abraham, c'est ce qu'il dit. Je crois que ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. Et en entendant Sarah qui riait parce qu'elle savait que cela était impossible pour elle d'avoir un enfant, le Seigneur va dire à Abraham, au verset 14, « Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu, bien-aimé? Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable, Dieu soit impossible que Dieu puisse réaliser au-delà des apparences? » Non! Dieu transcende tout ça, bien-aimé. Et c'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu-là avec qui on va passer l'éternité, bien-aimé. C'est ce Dieu-là avec qui on va vivre et régner pour l'éternité. Extraordinaire, quoi. Souvent, c'est par cause d'une certaine incrédulité qu'on limite, finalement, les capacités de Dieu d'agir dans nos vies. Parce qu'on marche en fonction des apparences. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit qu'avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est à cause de la foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que l'on ne voit pas, que ce qu'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimés, on n'ouvre jamais de débat si la terre a été créée en 6 jours, en 6 ans, 6 000 ans, en 6 générations, avec un non-chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Croire le chapitre 1, chapitre 2, je dirais même les 11 premiers chapitres de la Bible, c'est une question de foi. Pour la raison humaine, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, pour la raison humaine, c'est impossible de créer l'univers en 6 jours, bien-aimé. C'est impossible d'avoir créé tout ce qu'on en voit en 6 jours. On peut essayer. Et le problème, vous savez, je connais des grands théologiens qui ont succombé, hein, pour ne pas se faire fermer certaines chaires à l'université, qui sont rendus que c'est pas 6 jours vraiment comme ça, on est rendu avec des 6 millions d'années, puis à un moment donné, non, c'est 6 milliards d'années, puis ainsi de suite. Mais bien aimé, si on commence à jouer avec ça, là, ben vous pouvez jeter votre Bible. Si vous commencez à spiritualiser les 11 premiers chapitres de la Bible, jetez votre Bible, hein, et vous traitez Jésus de menteur, parce que dans les évangiles, il vient confirmer que les 11 premiers chapitres, c'est pas spirituel, c'est une réalité, c'est historique. La seule chose, c'est qu'on n'a pas des dates, mais Jésus, hein, il en était ainsi au temps de Noé. Quand il parle de la femme de l'homme, hein, celui qui regarde en arrière est impropre, inutilisable pour le royaume de Dieu, confirme que Lot et sa femme, ça existait, c'est théorique. Il parle de Sodome et Gomorre. Il parle de Noé. Il faut faire attention. Il n'en était pas ainsi au commencement lorsque Dieu créa l'homme et la femme. On n'est pas le fruit d'un hasard, bien-aimé. Amen. Bon, en terminant, rappelez-vous que Dieu a fait 3 promesses à Abraham. Première promesse, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu a tenu sa promesse. Nous savons que cette nation, aujourd'hui, c'est la nation d'Israël. Est-ce que Israël est une grande nation aujourd'hui? Oui. On peut affirmer, en tout cas, que militairement parlant, C'est la nation la plus puissante du Moyen-Orient. Au dire de tous, c'est probablement la quatrième nation aujourd'hui, au moment où je vous parle, la quatrième nation la plus puissante de la planète. Mais au-delà de tout ça, bien-aimés, c'est la nation d'où nous vient non seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi la nation d'où est venu le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Deuxième promesse, te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dieu a tenu sa promesse, le nom d'Abraham est connu dans le monde entier. Troisième promesse, Dieu a tenu aussi sa promesse. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et te maudiront, toutes les familles qui te maudiront. Eh bien, la question que nous devons nous poser, c'est de quelle façon Dieu a-t-il béni toutes les familles de la terre à travers Abraham? La réponse, c'est à travers un arrière petit-fils qui s'appelle Jésus-Christ. Je t'amène à ça? Les promesses de Dieu, Dieu n'a seulement les capacités de les accomplir, mais dans certaines générations, de nous voir, de voir ses promesses ça aussi s'accomplir. Bien-aimés, nous sommes invités à toujours dire oui à Dieu parce que Dieu veut agir à travers notre oui pour accomplir de son mieux la promesse qu'il a faite à Abraham. À chaque fois que nous disons oui à Dieu, deux choses se produisent. Nous sommes bénis et nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Et le plus grand oui que nous pouvons dire, c'est lorsque nous disons oui à Jésus-Christ. Car au moment où même vous dites oui à Jésus, je suis un pécheur, je me repens de mes péchés, je te demande pardon, Seigneur, car je suis convaincu que c'est ce que tu as accompli pour moi sur la croix qui fait que mes péchés sont pardonnés, effacés, et que je reçoive la vie éternelle. Vous commencez alors une relation avec Dieu, vous recevez une joie indescriptible, une paix qui dépasse tout ce que les hommes peuvent comprendre. Bien-aimé, Actes chapitre 3, verset 19, il y en a qui disent que c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais c'est essentiel. Premier message évangélique prêché par l'apôtre Pierre, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pas juste pardonnés, effacés, bien-aimés. La repentance est essentielle au salut, bien-aimés. C'est pas reçois Jésus, puis tu vas être content, tu vas être béni, tu vas être beau, et puis tout va bien aller pour toi. Reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on est perdu, bien-aimé. C'est pas un message populaire dans nos églises, mais il ne change pas ce message-là, bien-aimé. Il ne change pas. Rappelez-vous que c'est par grâce que Dieu s'est révélé à nous. Rappelons-nous que c'est par la foi que nous répondons à l'invitation de Dieu. Rappelons-nous que Dieu honore notre foi en nous bénissant de différentes façons dans nos propres vies. Rappelons-nous que les promesses de Dieu sont sûres et certaines et que ce qu'il a promis, il a la capacité d'accomplir. Finalement, rappelons-nous que lorsque nous disons oui à Dieu, nous ne sommes jamais perdants, bien-aimés. Non seulement nous ne sommes jamais perdants, mais bien-aimés, nous faisons partie des vainqueurs, bien-aimés. Car grâce à ce que Christ a accompli sur la croix, vous êtes vainqueurs en Jésus-Christ, bien-aimés. Et c'est en lui seul que vous pouvez vous fortifier, bien-aimés. Vous êtes amen à ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience et pour votre présence.